risque de la faute. Je ne tomberai pas dans l'éventualité de la faute. Qui ne trébuchera pas. C'est pas traduit exactement. La morale explique ceci. Il y a un comportement qui mène à toute faute que ce soit. Et suivant les différentes écoles des moralistes, ce comportement-là est défini de telle manière. Je vais parler de la manière dont le moral le définit. Le moral dit c'est l'orgueil qui mène à quelque faute que ce soit. Donc les mains de la faute, quelque faute que ce soit, c'est l'orgueil. Et rattachons ça à notre analyse, vous l'avez déjà compris par vous-même, pourquoi l'aveu est le plus difficile? Parce que toute faute étant une faute d'orgueil, l'aveu est difficile. C'est clair, c'est dommage. Et pour citer d'autres écoles de moralistes qui désignent des vertus un peu différentes ou parallèles, mais à ma connaissance en tout cas, le Maharal a consacré l'analyse d'un chapitre entier sur cette notion, en quoi c'est la tendance à l'orgueil qui est le commencement de toute faute. Et le Malbim a étudié plus tard que le Maharal le même thème sur un des psaumes qu'on vit devant vous l'histoire. Hachem Malach délit la vèche, en disant seul Dieu peut s'enorgueillir d'être ce que l'on veut. C'est-à-dire, le manque d'humilité, c'est la faute par excellence pour toute créature. Seul de dire, on peut dire de Dieu, Hachem Malach délit la vèche. Lorsque Dieu règne, il s'habille. On pourra traduire de fierté, délit, mais délit, c'est l'orgueil. C'est je crois qu'un des commentaires de Malvin que j'ai entendu sur mon oralement dit « Seuls les humbles ont le droit de parler. » Voilà, c'est un peu comme ça. Okay. Et de l'être. Okay. Et alors, l'analyse est finalement assez simple et proche de notre problème. Toute faute est un manque de mérite d'être, un manque de niveau d'être, un manque de mérite d'être. C'est le signe qu'on n'est pas encore le tzaddik accompli. Ça veut dire la créature réussie. Et se prendre pour la créature réussie avant de l'être, c'est ça l'orgueil. C'est donc bien l'orgueil qui est la racine de la faute. Bon, il y a une autre école qui a mis en évidence et qui est une très profonde du récit du livre, que la faute, mais ça peut-être un peu rattaché, mais je ne voudrais pas être trop complaisant pour le problème, c'est l'ingratitude. Que si on étudie bien la portée du récit biblique dans l'ordre de l'échec de la créature jusqu'au moment de la Géoula, du salut, de la rédemption, comme vous voudrez, on s'aperçoit que tous les récits montrent que la faille vient de l'ingratitude. Au fond, qu'elle a été, et vous le lirez attentivement dans le Moussaf de Kippour, quelle a été l'écueil, le chalon, comme vous dites, l'échec du premier homme, il a été ingrat. Vous vous rappelez de l'image de tout à l'heure, il n'est pas revenu, ayant appris à marcher, il fallait ailleurs, c'est l'ingratitude, c'est-à-dire, et dans tout le récit. Je ne peux pas dire que c'est la même explication, parce qu'elle est vraiment différente du point de vue de l'expérience. Au point de vue théorique intellectuel, ça revient au même. Mais finalement, on a lié des comportements moraux dans l'expérience existentielle, différents, suivant la sensibilité propre à chaque école de moralité. Et c'est très probablement, tout ça est vrai à la fois, et c'est très probablement par rapport à l'aspect de la mode culturelle du temps. Il y a des temps de culture où ça fait bien d'être orgueilleux. Il y a des temps de culture où ça fait bien d'être ingrat, etc. Il y a à peu près ce que vous voulez. Alors, revenons donc à notre problème. Quand le verset dit qu'il y a mitzvah à Zot, à Shalomachi Messah, car cette mitzvah que je te prescris aujourd'hui, c'est évidemment un des commandements de la Torah apparemment, de quoi parle-t-il? Parle-t-il de la Tshuva, d'après le contexte, ça semble évident, ou parle-t-il d'autre chose? Je vais vous lire. Je m'appuie sur une étude qui a été faite par L'avant-dernier grand rabbin de Jérusalem, des Ashkenazim, qui est un très grand darshan, pas très sioniste, enfin, ça c'était son problème personnel, mais vraiment un des plus grands orateurs de l'enseignement de la Torah de notre temps. Les Hongrois vont nous dire c'est ce qu'on croit. Et alors, je cherche la date, ça a paru il n'y a pas très longtemps, enfin, une trentaine d'années. Et alors, alors, dans son texte, il cite, je dis tout de suite, la Mishnah que nous avons étudiée ensemble. C'est le 7e chapitre, Halakha 5, de Hilchot Tshuva du Rambam de Maïmonide, qui est le 9. Je ne suis pas trompé. Oui, Halakha 5. Alors, je vais le lire. Mais je vais le marquer. Lorsque dit dans ce 5e paragraphe du 7e chapitre des Lois de la Tshuva du Rambam, Nayel Hazaka, qu'on a mis une coulam, si nous, à la Tshuva. Tous les prophètes ont prescrit la Tshuva. Ça semble être une mitzvah, hein? L'Israël Nigalim est la Tshuva. Et ici, le Rambam tranche, dans une discussion importante de la Gemara Sanhedrin, est-ce que la Géoula n'est possible que si Israël fait Tshuva, ou est-ce que même si Israël ne fait pas Tshuva, la Géoula viendra? Et tu veux dire, sort en partie, vous rappelez? Vous écoutez la guerre. Alors, nous rentrons dans une mission du Rambam un peu difficile, parce que dès le début, vous allez voir, il semble se contredire. En réalité, il ne se contredit pas, comme il ne se contredit pas. Je reprends. Kolan et Vin Kulam, si vous avez la Tshuva. Tous les prophètes, sans exception, ont ordonné, prescrit la Tshuva. Les Israël Galim est la Tshuva. Et Israël ne sera sauvé que par la Tshuva. Ou que va Vitticha à Torah, et voilà que ça commence à discuter, et déjà la Torah a promis, chez sauf Israël à ce Tshuva, que, en fin de compte, Israël fera Tshuva. Mais sauf Galitam, à la fin de la Mésine, il n'y a de Rémingan. Et immédiatement, ils seront délivrés. Je vous explique d'abord cette histoire. Ça veut dire, dans les temps, dans les moments de la fin du temps d'exil, Israël fera Tshuva et sera donc libéré, délivré. Et je reprends la difficulté. Il commence par dire qu'on a Nevi'im, qu'on a Tzivu à la Tshuva. Tous les Nevi'im ont institué le commandement de la Tshuva. Et d'autre part, dit Maïmonide, nous savons par le Talmud qu'Israël ne sera délivré que s'il fait Tshuva. Or, quel est le problème? Ou bien Israël fait Tshuva et n'est délivré que s'il fait Tshuva. Ou bien il fait Tshuva, il ne sera pas délivré, mais la délivrée. La délivrance est nécessaire. Hein? Il semble-t-il qu'il y a une contradiction. Voilà la solution de Maïmonide. Et elle est particulière à Maïmonide. Dieu fera, et c'est une promesse de la Torah, on va retrouver notre texte, Dieu fera qu'à la fin de l'exil, si pendant tout le temps l'exil Israël n'a pas obéi au commandement de faire Tshuva, à la fin de l'exil Israël fera Tshuva et alors ils seront délivrés. Vous voyez comment Maïmonide résout la difficulté, okay? La Tshuva, c'est une conduite autonome qui répond à une obligation. Mais d'autre part, c'est une promesse. Et ça se rattache à quelle discussion? Est-ce que la Tshuva est nécessaire pour que la délivrance ait lieu, ou bien, même si la Tshuva marche pas, la délivrance aura lieu. D'après la discussion dans le Talmud, eh bien, la discussion s'arrête sur l'opinion de celui qui dit, même s'il n'y a pas de Tshuva, la délivrance aura lieu. Maïmonide semble choisir pour l'autre opinion, mais il résout la difficulté comme ça. Il y aura Tshuva, mais parce que Dieu nous obligera à faire Tshuva, à la fin des temps. Et puisqu'il y aura Tshuva, parce que Dieu nous obligera, nous serons délivrés. Nous serons délivrés par la Tshuva, même quand on n'aura pas fait Tshuva, parce qu'on sera obligé de faire Tshuva. Et c'est pas la peine que je réalise plus. Celui d'hier soir, que Tshuva va venir, vous retrouvez la même Tshuva va venir, c'est ce qui s'est passé dans notre temps. On a été obligé de faire Tshuva, alors on a été délivré. Et en fait, je pense que c'est suffisamment clair. Simplement, ce que je vais expliquer, ça ne peut se passer, comme dit Maïmonide, qu'à la fin du temps de l'exil, mais sauf Galtam, qu'à la fin du temps prévu pour l'exil. Et alors, si nous avions obéi au commandement de Tshuva avant, par initiative humaine, l'exil aurait fini bien avant, quand nous serions revenus par conduite autonome de Tshuva. Mais puisqu'on est parvenu par conduite autonome de Tshuva, et parce qu'on n'a pas assez maîtrisé à la chaîne individuelle, le retour collectif n'a pas pu se faire, alors nous avons été obligés par les événements, et puisque obligés par les événements nous sommes revenus, alors nous avons été délivrés, la fin de l'exil a eu lieu pour la partie du peuple qui est revenue, c'est-à-dire pour l'histoire d'Israël. Et ce n'est là, voilà quel est le verset que Maïmonide cite à l'appui, Réaïa, qui avoue à l'échakola de Varim, Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshav Hashem Elokecha et Tzoukoutra, et là c'est le début de la chaîne. Okay. Vous voyez que Ramalina nous a donné hier soir, sans citer le livre de Maïmonide, en disant le livre de Maïmonide, l'essentiel de cet enseignement. Le Rambam n'a pas cité le contexte de la Gemara. Déjà dans la Gemara, dans Sanhedrin, cette solution est indiquée. Peut-être que là, j'entre un peu dans les soucis pédagogiques de Maïmonide, qui souhaitait que la Géoula eût lieu déjà en son temps. Et en son temps, c'est il y a 1000 ans. Hein? Est-ce que j'exagère ? 800 ans. Hein? Vous allez dire que pour la situation de l'exil, il y a une différence entre 1000 ans et 850 ans. C'est 1000 ans. C'est vrai, c'est que le Il n'y a pas de différence. Et alors, une semaine d'exil, c'est trop. C'est une semaine de plus, c'est trop. Et alors, il a souhaité, petite parenthèse rapide, c'est pourquoi il a écrit Mishneh Torah. Pour que les Talmid Chachamim disposent d'un code maniable pour une société qu'on a besoin tous les jours et qu'il n'ait pas à passer les heures et les heures qu'il faut depuis le Tsugya de Talmud pour savoir comment fonctionne en Talmud. Il a écrit à la Hazaka pour qu'un État d'Israël éventuel dispose de la Constitution. Vous voyez à quel point il nous manque aujourd'hui. Si nous avions la même manie d'aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il prendrait Attendez, je veux que l'analyse, sinon je le dis. Il y avait le Rav Moshe Maïmon qui voulait la. Vous savez bien Moshe Maïmon, le Rav Maïmon Moshe Ben Maïmon Non, Maïmon est bien. Mais le Saradatot qui voulait le samedi. Maïmon. Vous voyez qu'il y a le Moshe. Et on est un peu rassuré parce que sinon c'était trop. Je veux dire que. Il est possible qu'il y ait de notre temps un homme de l'envergure de Maïmonide pour nous donner cette constitution. Mais, mais de barrière qu'on ne la mérite pas. Alors il se passe. C'est-à-dire, tant que le moment n'est pas venu où elle peut être reçue, elle n'est pas donnée. Il y a là une situation contemporaine d'éclatement de diaspora intérieure que nous n'avons plus de jour, c'est pas la peine de la décrire, qui est l'indice que pire ça ne peut pas être, et donc qu'on va être sauvé. Enfin, il y aura encore quelques années. Mais je reviens à notre sujet. La Gemara dit, voilà comment ça va se passer. Combien ils font Tshuva, c'est combien. Combien ils font pas Tshuva, je leur enverrai un roi plus méchant que Haman et ils font Tshuva. Ça m'a donné de l'impression. Mais il y a caché que Haman, mais il y a un sujet. Vous connaissez ce texte, hein? Or, c'est comme ça qu'est arrivé. Pourquoi Israël est revenu? En fait, compte, parce que les grands pogroms ont commencé. Et avant même clair, il s'agissait de Beit Tshuva, comment on l'appelle ce machin là Beit Tshuva. Bon, je ne sais pas comment c'est dans l'endroit. Et ça a commencé dans ces grands cosacries, en fait, on va dire ça. Mais alors la Tshuva a commencé. Il est bien évident que c'est très paradoxal de découvrir cela. Quand les juifs, qui ne se passent pas sur la Torah, disent pourquoi on est revenu à cause des persécutions, mais c'est ça que la Torah dit. De leur dévoiler qu'ils sont décédés. Que c'est comme ça. Il aurait fallu éviter ça, mais c'est ça que la Torah a dit. C'est-à-dire, en venant ici, même comme terre d'asile, on commence à accomplir le programme de la Torah. C'est ça ce que vous voulez dire. Par conséquent, des deux côtés, il n'y a pas du tout à récuser l'authenticité du retour de ceux qui sont revenus comme ça, avec leur argumentation sans aveu, okay, et il n'y a pas non plus comment dire, je vais dire les deux choses correspondantes. La première, c'est clair, il n'y a pas à maîtriser ce comportement, et d'autre part, bien au contraire, il y a à l'éclairer, c'est-à-dire à dévoiler à ceux qui sont dans ce cas qu'ils sont plus tzadikim qu'ils le pensaient. Et en tout cas, ils sont bien plus tzadikim que ceux qui ne reviennent pas tout en étant les hommes de la Torah. Bon, voilà sur ce point. Donc, Maïmonide nous pose clairement cette difficulté. D'une part, il nous dit que c'est une mitzvah que tous les Néviim ont dit comme mitzvah, et d'autre part, il dit que c'est une promesse que ça arrivera. Alors, il a laissé, puisque, encore une fois, il souhaitait que de son temps ce soit le cas, il s'est bien aperçu que les Juifs de son temps étaient occupés ailleurs. Pendant que lui aurait voulu, avec d'autres, mais n'est-ce pas de ce temps-là, c'est le temps trop inquisitia, ça prépare l'inquisition, tout ça, et que les Juifs reviennent en Israël. On aurait économisé, vous allez dire, 600 ans, en fait, 1000 ans de temps inutile, et de ce point de vue-là, en tout cas, pendant ce temps, eh ben, les Juifs s'occupaient de fonder Amsterdam et la nouvelle Amsterdam, d'amener la bénédiction dans les Balkans, de préparer les villas au Maroc, etc., etc., et ailleurs, Clermont, est-ce que c'est moi, Worms, tout ce que vous voulez, jusque dans les confins de partout. Alors il a bien vu ça et il a dit, bon, ben, on leur dira pas ce qui arrive. Finalement, pédagogiquement, c'est très clair. Il a laissé seulement un mystère. Comment Dieu va s'y prendre pour que les Juifs reviennent quand même? Ça l'a gamara l'a dit. Ils reviendront dans la difficulté, mais lui il l'a. Alors, le rap que je vous ai cité, il y a une question? Pas quelques mots.
האם יש אפשרות לחשוב על גאולה בלי תשובה? עכשיו, יציאת מצרים, גאולת מצרים, הייתה תשובה לפני גאולת מצרים?
זה משהו אחר. גאולת מצרים זה הבטחה לעבוד, עם ההבטחה לעבוד. בלי שום זכות של אדם. La question était que si le Rav Maïmonide explique que Israël à la fin des temps de Dieu sera obligé de faire Tshuva, ça voudrait dire qu'il adopte l'opinion que même Tshuva, sans Tshuva, il peut y avoir une Géoula, puis c'est une Tshuva obligée, pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, je découpe la question de la question des gens de la sortie de vie. Pas du tout, parce que tout le monde a été obligé, mais seuls ceux qui ont fait une chose obligée. En fait, dans cette obligation de faire chouva de tout le monde, une partie d'Israël a fait chouva. Par conséquent, il y a quand même un souci. C'était bon. Ça, c'est.
Le modèle d'Israël,
c'est toujours. Ah, attendez, avant d'arriver là, il y a encore un point. C'est que la Gemara est très claire. La discussion, c'est entre Rabbi Yoshua et Rabbi. Hein, vous vous rappelez? Très méchant. Eliezer, dans sa médrine, okay. Bon. Alors finalement, sauf Rabbi Yoshua s'attaque, dit la Gemara. Ça veut dire que Rabbi Yoshua, avec la tête, il faut Tshuva, et il citait des versets. Et puis Rabbi Eliezer disait, sans Tshuva, il citait des versets. À la fin, au dernier verset de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua s'attaque, c'est plus, et n'a pas cité des versets. Beaucoup de commentateurs anti-messianiques nous diront, il n'en pensait pas moins. Ah oui, c'est une Gemara, c'est pas la fontaine, vous comprenez? C'est pas les phrases de la fontaine. C'est le tabou. Et la réponse, encore une fois, nous l'avons dans la même page de Sanhedrin. Ça veut dire, s'il mérite, la Géoula est avancée, et celle-là, il faut faire Tshuva. S'il ne mérite pas, alors il y a en son temps, et là, il n'y a pas besoin de Tshuva. C'est le temps qui fait la Tshuva. Le Rav a ici un chidouche. Et il dit, quand le temps arrivera, on fera quand même Tshuva, mais une Tshuva obligée. Alors, sur la question de Batia, ce que je réponds est important. Le peuple juif a vécu l'événement qui l'obligeait à faire Tshuva, mais une partie seulement fait Tshuva. Donc, il y a quand même un mérite de ce qui. Maintenant, en ce qui concerne la sortie de l'Égypte, c'est autre chose. Il y avait bien dans le début de Shemot, par Shubaira, les gammes Akimoti et Bereti. La sortie de l'Égypte s'est faite des Chesed Elyon. Ça veut dire sans mérite, parce que le promesse devait être accompli. Il y avait quand même, un peu à la manière de ce que je viens de dire, quelque chose de l'ordre du mérite, puisque seuls ceux qui ont mérité sont sortis, puisque les autres ne sont pas sortis. Mais les Midrash intervient, quel mérite ? Un mérite, je ne sais pas comment vous dire, qui aujourd'hui nous ferait sourire, à quel point on ne comprend pas que c'est important. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs vêtements, et ils sont restés tout est familial. Et c'est ça le mérite de la Tchoua. Alors, comparons avec aujourd'hui, et toutes les comparaisons doivent être à un niveau d'analogie X, mais je veux dire pourquoi c'était à 11 de 21 ans. Et bien c'est ça que j'avais. Seuls ceux qui voulaient se retrouver juifs en hébreu sont revenus. C'est-à-dire ne pas changer leur nom, ne pas changer leur langue, ne pas changer l'apparence, le talit ou le drapeau bleu et blanc. C'est la même chose. Le talit, le drapeau et le bleu et blanc. À ce niveau-là. Et il ne s'agit pas du carton des Sfaradis ou de la capote des Nations Unies. Ça, ce sont des vêtements adoptés, sacralisés. Ce ne pas des vêtements juifs. En réalité, ce ne sont pas des vêtements hébreux. C'est des vêtements juifs, d'accord. Ce n'est pas des vêtements d'Israël. C'est des vêtements d'Israël adoptés. Et il y a eu au second degré cette fidélité-là qui lui explique le comportement des sociétés, pas seulement chassidiques, je veux dire des sociétés harédiotes. C'est à un certain moment de leur histoire qu'ils ont dit on ne change plus. Mais elles sont habillées comme ça parce qu'elles avaient changé avant. Vous avez compris ce que je dis. Et alors là, il y a un réaménagement de sensibilité. Bien sûr que c'est juif, mais ce n'est pas juif d'Israël, c'est juif de la lutte. Ça fait sentimentalement, et plus que folkloriquement, ça fait un événement important d'être habillé à la manière des ancêtres. Mais quels ancêtres ? Les ancêtres de la héroïne en français, du Mahavar, les ancêtres de la, du passage contingent arbitraire de sauvetage, ou les ancêtres, nos ancêtres les Hébreux, nos ancêtres les Sémites. Et vous voyez cette tentation dans les erreurs de tir du retour aux sources d'aller chercher le modèle chez les Arabes. Et ça, c'est un peu le raté. Alors, en réalité, on ne sait plus ce que c'est ce vêtement. C'est pas grave. C'est Israël, tu vas le réinventer. Mais alors, c'est le vêtement israélien qui sera le vêtement hébreu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pas la fidélité au vêtement de Galou. Je vais raconter une anecdote que le Rav Tzvi m'a raconté. Il y a très très longtemps, son père a été invité à célébrer le mariage de tous les nouveaux Israéliens avant l'État d'Israël, comme on les appelait, les Juifs palestiniens, hein, mais du Yishuv, pas des ghettos. Et alors, il s'agissait d'un kibboutzini qui était en uniforme de kibboutzini. Et ils sont venus sur la Koupa en uniforme de kibboutzini. Et alors, avec une casquette de chômeur, donc de policier, hein, il s'est marié avec une fille d'une famille harédite. Il y a eu une émeute. Comment le raconte, bénit le mariage sous la roupa, kadosh, d'un kibboutzinique avec une casquette de chômeur. Il avait répondu, la casquette du chômeur allait dans la Torah. Shoftim, shoterim, titenecha. Tandis que le je sais pas moi, ou le tarbouche, ça c'est pas dans la Torah. On a compris. Alors il faut arriver à ce stade-là, mais il faut un effort de vision aiguë pour savoir que ce qui est hébreu et kadosh s'entend que c'est hébreu. Et qu'il y a une kedusha tirite à laquelle on s'est déshabitué pendant 2000 ans. On a une kedusha altirite transfigurée qu'on reconnaît même comme dans des véhicules qu'on a sacralisés, mais qui n'étaient pas des véhicules normaux, naturels de l'âme Israël. Aujourd'hui, je crois que la société juive, où qu'elle soit, surtout en Israël, sans les caftans et les capotes et les boulets de fourrure, ne serait pas ce qu'elle doit être. On ne pourra plus s'en passer. Mais il ne faut pas mettre l'écart à la place tout à fait, à la place du écart. Il y a là un problème de sensibilité à réaccorder qui est absolument inévitable. On reste le livre Midrash, qui nous parle des mérites grâce auxquels les héros qui sont sortis d'Égypte sont sortis d'Égypte, l'Égypte nous diagnostique avant la lettre ce qui s'est passé dans notre temps. Qu'est-ce que c'est que la théorie ? Donc ça veut dire, encore une fois, dans notre langage moderne qui est très très partiel, ce sont des critères d'ordre nationaux, de fidélité nationale, et non pas du tout des critères de niveau religieux dans le sens théologique. C'est bien évident. Bien un exemple. Dans une toute autre marge, je m'en découvre. Et il y a une conséquence. Oui, mais de quelle forme elle avait, quelle couleur elle avait. Les valeurs migrales sont en marge. Je crois que les artistes israéliens de la génération montante, dans la mesure où ils ne se coupent pas de leur origine juive, retrouveront de quoi il s'agit, c'est ceux qui nous donneront que c'est ça que ça sera, c'est vraiment l'histoire. Dans la mesure, ils ne cherchent pas à faire une espèce de pastiche du théâtre grec. Alors ils nous donneront les comportements hébreux, parce qu'ils seront redevenus hébreux. Et vous savez à quoi ça ressemble. Le Rav Kook a un chapitre là-dessus, c'est que il faut être tzavar, comme on dit en tzavari, il faut être prophète. Il faut être né de la terre d'Israël pour être prophète. Alors, il n'y aura que les tzavarim qui seront prophètes. Ça. Il n'y aura que les artistes hébreux israéliens qui seront juifs. Parce qu'à présent, il n'y a pas d'art juif. Il y a un art goy juivisé. Prenez le problème des Hanoukiot. Vous avez une Hanoukia juive, ça n'existe pas. Vous avez des Hanoukia polonaises, des Hanoukia marocaines, c'est clair ? Ah, d'accord. Un jour, il y aura une Hanoukia hébreu israélienne. Ça commence déjà la Hanouka d'ailleurs, on commence à voir ce plein de mauvais goût dans les vitrines, mais quand on va à Jésus qui apparaît, peut-être ça passe par là. C'est clair ? Et voilà, le juif a toujours été un argol sur lequel on a mis un accent de sainteté. Ça c'est un peu enjuivé, enjuivisé, je ne sais pas comment, s'il vous plaît. Moi je me rappelle très bien, dans ma génération, quand les juifs d'Algérie, vous avez donc des vieux chiens, quand les juifs d'Algérie commençaient à se filer, et ceux qui gardaient un peu de Zika, comment on dit Zika, de
Zika,
oui, le lien, plus fort que le lien, parce que c'était aussi petit, avec la Yiddishkeit algérienne, j'emploie le mot Yiddish parce qu'il est plus clair en hébreu que le mot arabe, correspondant, et c'était ceux qui avaient encore un certain sentiment pour le folklore arabe algérien. Alors, je m'en rappelle très bien, des jeunes hommes, de l'école de ma génération au lycée, on passait devant un café arabe, tiens, c'est la musique juive. Vous ne voyez pas plus ça ? Par exemple, ceux qui se parlaient encore juif arabe, on dit ils parlent juif, alors c'est arabe. C'est-à-dire, ceux qui ont gardé l'amour des mélodies algériennes arabes, continuaient à la synagogue pour entendre la prière. Voilà, c'est ça que je dis, la prière la plus jolie. Mais je vous garantis que c'est comme ça. Et en Tunisie et au Maroc, ça a changé depuis. Mais à l'époque, c'est-à-dire avant la guerre mondiale, c'était comme ça. Pour pouvoir rester juif, il fallait aimer le folklore arabe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on appelait ça l'art juif. Non, c'est l'art goy juivisé. Tout le monde sait que les chants chassidines, c'est irremplaçable. Mais c'est quand même des chants tziganes chassidisés. j'ai pas dit acidifiés. Mais, etc. Vous savez qu'est-ce que c'est un chant juif nord-africain ? C'est un chant arabe avec trois fausses notes. Bon, on revient donc à notre problème. Je continue très rapidement l'analyse. C'est que la solution est qu'on ne parlait pas de la même Géoula dans la discussion du Talmud. Quand Yeshua dit son mérite, il parle de la Géoula Bimher Rabbi Yamenu, il parle de la Géoula de Achishena le plus vite possible. Quand Rabbi Yeshua n'a pas besoin du mérite, il parle de la Géoula ultime, de la Géoula de la fin des temps. C'est bien clair ? Et alors, je crois qu'il y a une ligne qu'on a étudiée dans d'autres séminaires, une ligne de lecture depuis le temps des prophètes, sûrement depuis le temps de la Torah, puisqu'on voit que la prophétie ici est pessimiste, catastrophique, que les deux lignes étaient possibles. Et que de plus en plus, les sages d'Israël, premièrement les prophètes, ont vu que le peuple d'Israël avait choisi la ligne de l'attente jusqu'au dernier rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle, avec le temps, les sources qui parlent de l'éventualité catastrophique, vous serez obligés de revenir, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus, détaillées. C'est clair, celui-là ? Alors, je reprends le texte du Rav. juste une ligne et on va conclure sur le fond du problème, c'est pas celui-là, là, vous. Après, il dit ceci. Dans les retours, il est bien clair que le Rambam résout la contradiction en penchant pour la Tshuva, promesse que tu feras Tshuva, et non pas commandement.
C'est pour lui,
non ? Et ça, je n'ai pas encore cité. Tshuva, y compris le résout, mais Tshuva, Michlal, commandement. Il résout la difficulté en prenant le cas de celui de promesse. Mais d'autre part, conclure là-dessus, Haré, Arambam, Mefaré, Shetata, Shetata, Hashem, Elokecha, Shenzo, Mitzvah, et là, Shizoli, Aptaha, Shesof, Israël, Asot, Shuba. C'est clair que le Rambam, d'après cette Mishnah, que je viens de lire, explique l'autre verset concernant la Shuba, le Shabta, tu reviendras, pas que c'est une Mitzvah, mais que c'est une promesse qu'en fin de compte, Israël reviendra. C'est clair? Et alors, il répond, le Rav explique de la manière suivante. Pour le Rambam, la tshuva est un comportement naturel du tzaddik. Et donc on ne peut pas légiférer sur un comportement naturel, puisque c'est une tendance où on n'est pas libre. Et donc, où est l'aspect de la mitzvah? C'est que lorsque ce comportement arrivera, en fin de compte, il y a promesse qu'il arrivera, de l'authentique. Donc là, le commandement est dans le vide. Comment va-t-il expliquer alors notre verset à nous où on parle de mitzvah? Je raccourcis un peu parce qu'il nous reste peu de temps, en nous disant que la mitzvah dont parle la Torah ici, c'est pas la tshuva, mais l'étude de la Torah. Et ici, qui a mitzvah à eux, cette mitzvah-là, c'est, et je passe sur le Talmud d'ailleurs, ce n'est pas la tshuva, mais l'étude de la Torah. Parce que c'est l'étude de la Torah qui fait qu'en fin de compte, on fera tshuva. Voilà, je raccourcis un peu le raisonnement global, mais l'essentiel
est là.
Par exemple. Je reprends le verset. Quand notre texte dit « Elle n'est pas loin dans le ciel, loin de l'autre côté de la mer », il ne s'agit pas tellement de la mitzvah de la tshuva, mais de la mitzvah de l'étude de la Torah. Alors, donc nous sommes en présence d'une problématique, c'est que le Rambam parle au plus haut niveau d'authenticité de l'homme. Si l'homme est véritablement sensible aux valeurs, il n'y a pas à lui commander le retour à la vertu quand il l'a perdue, c'est sa propre nature qui l'obligera à le faire. Et c'est vrai pour la Shuva individuelle, c'est vrai pour l'histoire d'Israël. Si Israël est vraiment le peuple d'Israël, il n'y a pas à lui commander de revenir de l'exil, il reviendra par lui-même. Nuance du point de vue de la législation, de la juridiction, disons, ça n'est authentique que lorsque l'aveu est authentique. Et si on est réfractaire à l'aveu, alors vous avez au verset 9, bien sûr, prenez le verset avec moi. Non, c'est pas le verset 9, le verset 6. Alors Dieu intervient, on m'a la chambre de l'Okéra de l'aveu. Dieu circoncira ton cœur de telle sorte que tu puisses savoir parler. Mila. Que tu puisses savoir avouer. Et alors que le Rambam Nahmani, lui, va établir l'aspect de commandement de la Tshuva, parce qu'il prend le problème au niveau de la réalité qui se trouve entre-temps, je veux dire, pendant tout le temps qui va jusqu'à la fin des temps. L'histoire, en fin de compte, comme vous l'avez expliqué d'une autre manière l'année dernière, l'histoire, en fin de compte, a donné raison à qui? À Rambam ou à Ramban? L'histoire a donné raison à Rambam, à Maïmonide. C'est-à-dire, si Israël est revenu, c'est parce que, en fin de compte, il s'est identifié comme Israël, qu'il ne pouvait pas faire autrement que de revenir. Il est revenu parce qu'il est revenu, pas parce qu'il avait un commandement de revenir. Est-ce que c'est bien clair? Parce que quand est-ce que Dieu a donné le feu vert pour que la possibilité dans toutes les difficultés que nous connaissons depuis 100 ans dans notre histoire, pour que la possibilité de revenir en fin de compte jusqu'à 38 ans après l'état où nous nous trouvons, l'état Tarté Machmar, c'est quand le peuple juif a décidé de fonder un mouvement qui s'appelait le mouvement du retour. Alors, il y a eu la force. Ça, je le répète souvent dans d'autres analyses, le seul messianisme cachère aux yeux de Dieu, pour un croyant et une intelligente histoire et sous le regard de Dieu, le seul messianisme cachère a été le mouvement sioniste. Pourquoi ? Mais parce qu'il s'agit d'une décision du peuple juif de revenir en tant que nation. Alors ça réussit. Ça réussit dans les difficultés que nous méritons, évidemment, parce que si on méritait plus, ça serait plus, autrement, ça serait autrement. Tu sais. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous est arrivé quelque chose en 48, c'est-à-dire en 1708, quelque chose de tellement énorme qu'on ne se rend plus compte que c'est arrivé. Pendant 2000 ans, ce n'est pas possible, mais plus tard. À partir de 48, ça devient possible, mais plus tard. Et tous ceux qui sont nés après sont défavorisés de manière dont vous n'avez aucune idée. Parce qu'ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. Ils peuvent savoir intellectuellement, ils sont jamais ce qui s'est passé. En même temps, ils sont privilégiés. Ils rentrent dans un monde où il y a déjà Israël. Mais vous voyez l'ambiguïté, ils sont privilégiés et défavorisés. Je vois ça déjà avec mes propres enfants. Ils sont nés après l'État d'Israël. Ma fille aînée, elle est née l'année de l'État d'Israël. On lui fait une fête particulière pour son anniversaire. Je vais rien. Mais moi j'étais à votre âge, pour le plus grand d'entre vous, quand c'est arrivé, bon, je ne suis pas le seul d'ailleurs, bon, j'ai connu le monde où il n'y avait pas Israël, où il y avait des Juifs dispersés. Et puis voilà que subitement, j'ai connu le monde où il y avait Israël. C'est pas le même monde. Ça n'a rien à voir. Hein. Pas seulement pour les Juifs, pour le moment, j'ai un casse-tête en plus, quand c'est arrivé à tout ça. Et alors, d'où c'est venu cela ? Mais ce croix de piété, de quoi ? De Barlechou, à l'époque, il n'y avait pas. Hein ? Le mouvement de Barlechou en France, je suis payé pour, je ne vais pas payer pour ça, c'est pas ça, a commencé quelques années après. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Ce qu'il y a eu comme mouvement, c'est le sionisme, purement et simplement. Hein ? C'est-à-dire la décision de la nation juive comme telle de se définir comme nation du retour en Eretz Israël pour fonder la nation hébraïque. C'est un mouvement national qui a fait que Dieu a dit alors ça y est, vous avez compris ce vers, déclaration de Balfour, hein, avec toutes les difficultés qu'il y a eu et qui continuent. Mais c'est ça qui s'est passé. Par conséquent, on voit bien que, comme dans l'étude hier soir que déjà encore aujourd'hui, c'est le texte simple de ce chapitre dont il s'agit. À quelle question j'ai répondu avec ça ? Qui m'a posé quoi comme question ? Parce que, je veux dire, tous ceux qui font tout ça aujourd'hui dans un sens premièrement religieux, le font dans des conditions privilégiées qu'ils n'auraient jamais eues de le faire, même s'ils sont loin parce que ça existe, et quand ils sont ici, parce qu'ils sont ici, mais ils sont ici que par ce qui s'est passé de façon irréversible encore. Tout a changé. Okay. Il est bien évident que cette deuxième étape qui s'amorce déjà, pas seulement tu vas à Ah, mais tu vas elle, pas seulement en Israël, mais avec la Torah, n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu la première étape. Et je crois qu'il est important de le dire aux deux parties, que ceux qui font tu vas à la Torah et s'enferment là où ils s'enferment, le doivent à ceux qui sont revenus sans dire de quoi il s'agissait, et qu'inversement, ceux qui sont revenus sans dire de quoi il s'agissait, je retrouvais ce que je disais tout à l'heure, sachent la grande chose qu'ils ont faite, et que c'est dans la Torah. Peut-être que ça arrivera un jour un peu à dévier ce dialogue impossible entre les uns et les autres, et réciproquement. Hein. C'est un dialogue qui a été en galoute. Oui. Mais bien sûr qu'il le voulait. Mais comprenons un peu de quoi nous parlons. C'est comme dire à la Midrash une mère ou un père qui n'est pas content de son fils et qui lui dit en exil. En même temps, il tombe et revient vite. Ça répond du tout. Vous connaissez ce qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue et pourquoi il arrive en retard comme le Messie. Et pourquoi il arrive qu'après la fin des temps. Le Midrash sur Tisha B'Av dit de façon claire, le jour où le temple a été détruit, ce jour-là, le Messie est né, mais on n'en a pas voulu. Si on en avait voulu, on serait venu. Écoutez, voilà que ça se dit concrètement. C'est un père qui dit à son fils, méchant, va-t'en, reviens. Et le fils n'entend que va-t'en. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit ? Eh bien voilà, c'est ce qu'il a dit. Vous avez un temps dans les vies. ou bien vous laissez vous faire revenir, vous revenez tout de suite, Zahar Krishna, vous ne laissez pas vous faire revenir, vous reviendrez quand même, mais vous allez le payer. C'est clair, voilà, c'est ça tout ça. Et alors, on a attendu de revenir quand même. Vous savez, et c'est ce que le Rav Lumière vous aurait dit à sa manière hier soir aussi, au fond, qu'est-ce que nous faisons ? Quelque chose d'illimité. Ça fait partie du caractère ubuesque de l'histoire juive contemporaine. Ça consiste à enfoncer des portes ouvertes avec des tanks. Je ne sais pas si vous rendez compte. Et c'est très fatigant d'enfoncer des portes ouvertes avec des tanks. Vous avez rendu ces choses-là. Il y a quelque chose d'inouï, c'est-à-dire de refuser de voir l'évidence qui nous justifie. Alors on préfère être dans le cas. C'est incompréhensible à quel point on s'est dénaturé pendant l'exil. Je vais terminer, c'est l'heure ?
Je ne sais même pas.
Oui, je vais terminer par une image qu'il dit souvent dans les cours, disons dans l'avant-dernière décennie, c'est ceci. Il y a une des explications de l'exil qui est que Israël est tombé malade, au temps du premier temple, au temps du deuxième temple, ça n'allait pas. Hein. Alors Dieu l'a envoyé en convalescence, se soigner, se guérir, et il a dit, tu reviens en Dieu. Bon, il revient pas. Alors à la fin, il a dit, alors reviens. Je t'ai dit, tu es reviens. Il dit non, je reviens pas. Pourquoi ? En partant, il avait pris une valise de médicaments. Et il lui en reste encore des médicaments. Ah, je dis, mais j'ai pas fini les médicaments, je ne peux pas revenir, je suis encore malade. Alors que Dieu lui a dit, mais reviens, j'ai guéri. Il dit non, j'ai encore de... c'est grâce à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Ben, jette des médicaments, reviens. Ou jamais, c'est des midvot. Quel midvot ? Un bon cri, des midvot. Une des midvot. À trifouiller les oies, des midvot. Jette tout ça et reviens. Je vous chahute peut-être des évidences élémentaires, mais c'est très grave. J'ai entendu une fois un des élèves les plus trapus du Rav Tzvi en France, interpellé par une salle où il y avait et des gens qui voulaient pas venir parce qu'il y avait des mitzvot en galut, et des gens qui voulaient pas venir parce qu'il y avait des mitzvot en Eretz Israël. Alors il s'est mis en colère, mais en colère trapu, caractère, bon, un kibbutzim d'ailleurs. Il y en a un qui a dit, mais qu'est-ce que j'allais faire en Israël ? Moi je mange un cochon. Et là-bas, ça se passe. Alors vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, mange ton cochon, le jour de Kippour, mais viens le faire en Eretz Israël. Et là-bas, on verra. Et imaginez la valeur cavalérique des mangeurs de vos cafés africains. Quoi, qu'est-ce qu'il a pu dire, le rabbin ? Ils ont rien compris. Voilà, c'est ça le problème. Alors voilà, vous voyez, ça commence avec notre ancêtre Abraham. Relisez bien les chapitres 14, 15, 16 de Bréchis. Dieu dit à Abraham, tu sais, c'est toi. Et Abraham, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez remarqué ? Le Maharal, tout de suite, il produit la danse, en se tentant à nu. Voilà la cause de l'exil. Tout de suite, la cause de l'exil. Ah, tu n'es pas sûr, alors va te rassurer là-bas, va te assurer là-bas pour que, quand tu reviendras en étant sûr. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Dieu, au bout de 2000 ans d'exil, épouvantable. Vous savez, qu'est-ce que ça fait d'être un juif de l'exil quand il n'y avait pas Israël ? Et c'est pas fini, maintenant il y a Israël, mais c'est pire. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. On fait semblant de comprendre qu'est-ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, cet exil doré des intellectuels juifs de la rive gauche, vous voyez ce que je ne veux pas dire, ce que je dis. C'est pas l'exil, ça, c'est la dentelle d'exil. C'est un jour, il est en exil, comment avec quoi il parle. Et alors, Dieu leur dit, mais c'est fini. Hein, 1907, c'est fini, comment ? Et alors le peluche, je suis, j'ai encore une dizaine de médicaments. Voilà, c'est très grave, parce qu'on est en train de lire un texte de la Torah, pas n'importe quoi, mais si c'est là. Bien. Alors écoutez, juste une minute pour le programme, si je laisse les yeux, on se retrouve, si Dieu veut.